Bonjour, c'est Une vie, une œuvre et aujourd'hui je vous propose de parler mode avec le portrait de Monsieur Yves Saint-Laurent. Né le 1er août 1936, il nous quitte le 1er juin 2008 à l'âge de 71 ans. Karl Lagerfeld disait « Yves fut mon meilleur ami pendant 20 ans. Yves était l'être le plus amusant et sympathique qui soit ». Les destins d'Yves Saint-Laurent et de Karl Lagerfeld se croisent pour la première fois en 1954 dans le cadre du concours de stylisme organisé par le Secrétariat international de la laine. Le premier, 18 ans, est vainqueur dans la catégorie robe du soir, tandis que le second, 21 ans, remporte le premier prix dans la catégorie manteau. Dès lors, la fabuleuse destinée de Yves Saint-Laurent se dessine. À 21 ans, il se retrouve à la tête de la maison de haute couture la plus prestigieuse au monde à l'époque, Christian Dior. En 1961, il ouvre sa propre maison qui atteindra rapidement la renommée que l'on sait. Aujourd'hui, la griffe Saint-Laurent est tenue pour un modèle d'élégance. Je vous propose donc, guidé par Pascal Charpentier et Dominique Costa, de découvrir ou redécouvrir le portrait de Monsieur Yves Saint-Laurent.
Bonjour. Au sommaire aujourd'hui, un symbole de la France fait ses adieux. Yves Saint-Laurent abandonne la haute couture après 40 années d'une carrière sans égale. Le créateur vient de l'annoncer lors d'une conférence de presse.
J'ai choisi aujourd'hui de dire adieu à ce métier que j'ai tant aimé. En ouvrant en 1966 pour la première fois au monde une boutique de prêt-à-porter à l'enseigne d'un grand couturier, et en créant sans me référer à la haute couture, j'ai conscience d'avoir fait progresser la mode de mon temps et d'avoir permis aux femmes d'accéder à un univers jusque-là interdit. Comme Chanel, j'ai toujours accepté la copie et je suis très fier que les femmes du monde entier portent des tailleurs pantalons, des smokings, des cabans, des trench coats. Je me dis que j'ai créé la garde-robe de la femme contemporaine, que j'ai participé à la transformation de mon époque. Je l'ai fait avec des vêtements, ce qui est sûrement moins important que la musique, l'architecture, la peinture et bien d'autres arts. Mais quoi qu'il en soit, je l'ai fait.
France Inter.
Mon esprit maintenant.
Le 7 janvier 2002, jour d'adieu d'Yves Saint-Laurent à son métier. Parmi les fidèles et amis, Ingrid Cavan.
C'est très triste, mais je suis aussi révoltée. Il est un symbole pour des créations extrêmement individuelles qui rejoignent par leur individualité très osée beaucoup plus de sensibilité générale que d'autres qui osent pas aller dans l'individuel, qui restent dans l'idée de la reproduction. Moi, personnellement, je tire beaucoup, beaucoup de force des beautés qu'il a données. Les forces pour la vie et pour la création.
Ich weiß nicht wo und ob wir so im Tanz uns wieder drehen. Au revoir.
Yves Saint-Laurent, Oran, 1936, Paris 2008.
Merci et au revoir.
On dit que Lucienne, sa mère, habillait son fils comme un petit dandy, ce qui lui valait des coups à l'école. Laurence Bénaïm.
Je pense que là, c'est un petit peu prélevé de l'histoire des éléments pour les recomposer et alimenter cette vision à la fois victimisante d'Yves Saint-Laurent tabassé par ses copains à l'école, etc. Mais je vois dans tout ça, même dans, peu importe s'il s'agit d'une vérité ou d'un mensonge, je vois dans tout ça la marque d'une différence. C'est vrai que Yves Mathieu Saint-Laurent n'était pas un petit garçon comme tout le monde, au sens où j'avais parlé, je m'étais même entretenue avec son... J'avais retrouvé son professeur de dessin au lycée La Mauricière, et il avait créé un blanc d'argent, une couleur qui n'existait pas. Et que, bon, peut-être aujourd'hui, on parle de dandy, on dit qu'il était un peu mieux habillé, peu importe. Yves Mathieu Saint-Laurent était déjà différent, il était déjà en lui, Yves Saint-Laurent, celui qu'il allait devenir.
Quelles sont les couleurs d'Yves Saint-Laurent ?
Des couleurs qui claquent, des couleurs qui pleurent, des couleurs qui saignent, des couleurs qui ne vous laissent pas intactes.
Ses ancêtres sont des héros, en tout cas des personnages remarquables.
Marie-Dominique Lelièvre.
Puisque du côté paternel, c'est une famille de robes, du côté maternel, une famille de guerriers. Et des deux côtés, il s'agissait d'Alsaciens qui avaient quitté l'Alsace en 1870 afin de rester français et qui, faute d'avoir une fortune, ont dû émigrer en Algérie. Les uns ont utilisé leur savoir pour réussir, donc étaient des avocats, et les autres, étant démunis de tout, se sont engagés. Ça a donné ces deux origines assez particulières, et des deux côtés, les grands ancêtres ont été décorés de la Légion d'honneur à une époque où on ne l'attribuait pas à n'importe qui.
Comment Oran et son enfance oranaise va-t-elle ressurgir dans l'œuvre d'Yves Saint-Laurent ? Sous quelle forme ?
Je pense que l'enfance d'Yves Saint-Laurent ressort dans tout ce qu'il a fait, que l'enfance est là en lui, pour reprendre ces mots de Proust, comme un rêve sans fin qui se prolonge, que l'enfance, elle est là dans sa sensibilité incroyable, dans cette attention aux autres, à tous les solitaires, elle est là dans son sens de la couleur dont Marrakech en 67 va devenir le révélateur. Elle est là dans cette altérité profonde d'Yves Saint-Laurent. Oran est là dans comme une ville qui sert de point de départ à la traversée de la mer pour aller rejoindre et pour aller faire de Paris la capitale Yves Saint-Laurent.
Tu seras un don Juan, c'est le titre d'un dessin d'Yves Mathieu Saint-Laurent, 14 ans en 1950. Que montre ce dessin ?
Ce dessin montre deux choses. Tout d'abord, il montre l'influence de Molière sur Yves Saint-Laurent, qui à 13 ans va assister à une représentation de l'École des femmes, mise en scène par Louis Jouvet. Cette pièce va avoir un effet détonateur sur sa vie, sur son imaginaire. Et puis, ce dessin montre aussi, finalement, cette recherche d'amour qu'il n'aura cessé d'avoir et de perpétuer à travers son métier, en étant celui qui offre de la séduction aux femmes sans jamais s'arrêter à une seule, en montrant que chaque couturier a un type de femme. Yves Saint-Laurent, lui, c'était les femmes en général, les femmes avec leurs qualités, leurs défauts, tout ce qu'il cherchait à sublimer en elles pour faire d'elles non seulement des femmes, mais des héroïnes.
Alicia Drake, pourquoi Yves Mathieu Saint-Laurent choisit-il la mode plutôt que la mise en scène, les costumes de théâtre ou l'illustration?
Je pense que par rapport au théâtre, bien sûr, il y a des femmes qui jouent au théâtre, mais la mode, c'est ce milieu de séduction de femmes qui est très exotique pour un petit garçon. Il recevait déjà les revues quand il était enfant. Je pense aussi le côté glamour de Paris, de la haute couture, d'élégance qu'il y avait dans les années 50 encore, le fascinait, qu'il n'y a pas dans le théâtre. Le côté apparaître, dont il jouait avec ce côté, cette idée d'apparaître. Je pense que c'est pour cela qu'il a choisi la mode et non pas le théâtre, et aussi la mondanité. Je pense que l'idée de monter à Paris, la capitale de la mode, c'était quelque chose qui était très puissante comme image pour lui, de vivre ce que Chanel a vécu, Christian Berra, avec Dior, plutôt que le théâtre, c'est... Il y a plus de sang dans le...
Est-ce que ça
de sang? De sang. C'est comme la chair et le sang, je trouve, dans le théâtre. Il y a moins de sang dans la mode. Et je pense que il voulait être dans ce milieu d'élégance, dans la mondanité.
L'enfance d'Yves Saint-Laurent, elle se termine à quel moment, Laurence Bénaïm?
Ouais, je dirais qu'elle s'est à la fois terminée le jour où il devient chez Dior le plus jeune couturier du monde à 21 ans, en 58. Et je dirais qu'elle se termine le jour de sa mort. Yves Saint-Laurent, c'est à la fois quelqu'un qui n'a pas eu de jeunesse et quelqu'un qui est resté toute sa vie un enfant.
Beaucoup de jeunes gens gravitent autour de Christian Dior.
Oui.
Par quel moyen Yves-Mathieu Saint-Laurent parvient-il à se différencier, à participer aux collections Dior?
Par le talent. Pur talent et volonté. Je pense que quand on se rend compte que la façon dont il est entré dans la maison de couture, c'est parce qu'il avait une relation de plutôt de lettres et avec Michel de Brunhoff, qui était rédacteur en chef à Vogue à l'époque. Et une fois, il est arrivé avec des croquis qu'il a fait. Et Edmond Charleroux, qui était à l'époque assistante à Michel de Brunhoff, se souvient de ce rencontre et de l'arrivée de Yves Saint-Laurent avec des croquis. Puis il est parti et Michel de Brunhoff a tout de suite appelé à Monsieur Dior, son ami, en lui disant « Je viens de voir ces croquis, ils sont extraordinaires, il faut absolument que vous voyez ce jeune garçon. » Et les croquis étaient d'une collection imaginaire de Yves Saint Laurent et qui ressemblait ligne pour ligne, ça c'est exagéré, mais qui ressemblait, qui était dans le style de la collection que Dior allait présenter dans une semaine. C'est-à-dire, Yves Saint Laurent n'avait absolument pas idée que Dior était en train de faire cette collection et il avait produit une collection qui aurait pu être celui du couturier.
Mort soudaine de Christian Dior en octobre 57. En novembre, Yves-Mathieu Saint-Laurent lui succède.
Qui est Yves-Mathieu Saint-Laurent?
Yves-Mathieu Saint-Laurent est un garçon qui a la flamme, qui aimait ce métier. Il a été présenté à Monsieur Dior par le journal Vogue. Et Monsieur Dior, ayant reconnu en lui un talent naissant, a désiré l'avoir auprès de lui. Au fur et à mesure des années qui sont écoulées, il lui a fait de plus en plus confiance. Il a participé de plus en plus aux collections avec lui. Et dès ce moment-là, Monsieur Dior avait reconnu toutes ses qualités.
Et ce garçon dont on parle et qui se cache modestement derrière ses lunettes, donc Yves-Mathieu Saint-Laurent, qui est très jeune puisqu'il a 20 ans, je crois.
Oui, 21 ans.
Succès de la ligne Trapèze, janvier 58.
Eh bien, nous avons eu beaucoup de mal à attirer Yves Saint-Laurent dans un petit salon d'essayage, ma foi, où nous nous sommes installés bien sagement tous les deux. Et je voudrais lui demander, il n'est pas encore très accoutumé au micro, je crois qu'il n'aime pas énormément parler à la radio, il le fait vraiment pour nous faire plaisir. Je voudrais lui demander de nous parler de sa ligne en général, ligne qu'il a appelée ligne Trapèze, qui est aussi, je crois, la ligne de l'équilibre, en somme.
Oui. Parce que je pense que cette saison, la mode est une question d'équilibre et de construction. Tout depuis le chapeau jusqu'à la silhouette s'inscrivant entre les deux bases du trapèze doit répondre à ce souci de pureté et de construction. Ce qu'on a appelé la robe sac est complètement disparu. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de biais du tout. Le biais est mort.
Avec des petites écharpes nouées.
Beaucoup
ou des
écharpes, et puis les colliers jouent une grande importance.
Le collier
a un ras-le-cou, parce qu'il meuble, il apporte un peu de douceur.
Il est composé comment? De plusieurs rangs?
Ce sont plusieurs rangs de perles.
Oui, c'est-à-dire que le sautoir est démodé.
Le sautoir est très démodé.
Parlons des couleurs, si vous le voulez bien.
Oui, eh bien, il y a beaucoup de couleurs très pâles, des blancs, des bleus, qu'on appelle bleu d'azur. Mais la couleur favorite quand même reste le noir, un certain noir, un noir diamant.
Comment Yves Saint-Laurent vit-il la décolonisation ? De quel côté est-il dans la guerre d'Algérie ?
À Oran, toutes les familles,
Marie-Dominique Lièvre,
Brigitte, avaient un membre dans l'OAS, favorable à l'Algérie française. Tout Oran, que politiquement on se situe à droite ou à gauche, on était, et ça c'est l'historien Benjamin Stora qui l'a expliqué, était favorable à l'Algérie française. La famille d'Yves Saint-Laurent a même été sympathisante et militante de l'OAS, puisque les parents d'Yves avaient confié les clés du garage de leur maison, enfin à des personnages importants de l'organisation secrète qui tenaient des réunions. Et Yves Saint-Laurent, lui, était déjà en France, il était déjà couturier en 62, il avait même déjà créé sa maison de couture, donc il n'était probablement pas au courant de ses activités. En revanche, il était lui aussi favorable à l'Algérie française et favorable aux thèses de l'OAS. Donc tout ça, et après, est rentré dans le silence, dans une espèce de chape de plomb pour lui. Il n'a plus jamais parlé de cette période durant des années. Lorsque sa mère, en août 62, est rentrée d'Oran, il lui a simplement fait une remarque assez cinglante qui était « ne joue pas à la rapatrier ». Et puis il a après attendu la disparition, la mort de son père à la fin des années 80 pour réaborder ce sujet. Et il en a parlé publiquement lui-même, il s'est exprimé de façon très chaleureuse. Il a à ce moment-là évoqué ses ancêtres qui étaient arrivés pour rester français et qui avaient dû un siècle plus tard, enfin plutôt sa famille, qui avait dû un siècle plus tard faire le chemin inverse ayant tout perdu.
Comment Yves Saint-Laurent réagit-il à ce conflit auquel il est finalement confronté puisqu'il est appelé sous les drapeaux à faire son service militaire ?
La réaction qu'il a eue lorsqu'il a été appelé au service militaire n'est probablement pas très liée à la guerre d'Algérie. Elle est liée au fait qu'il était le couturier vedette, il avait succédé à Christian Dior. Il était le couturier vedette de cette maison et que pour des raisons un tout petit peu compliquées à expliquer ici rapidement, mais il a été appelé alors qu'il pensait pouvoir être exempté. Et il a fait une très grave dépression nerveuse. Mais sa dépression nerveuse vient surtout de ce qu'il avait perdu, ce royaume qu'on venait de lui offrir, qui était la maison Christian Dior. Il a énormément souffert et il l'a très mal vécu parce qu'il savait que la mode est un univers dur, brutal, et que ce qui vous est octroyé un jour peut vous être retiré et ne jamais revenir entre vos mains. Et d'autant que hospitalisé au Val-de-Grâce, on lui a administré des neuroleptiques à forte dose. Il en a probablement éprouvé des séquelles. Un peu, vous savez, comme à la même époque, Françoise Sagan a eu son accident de voiture. Elle aussi, on lui a administré des drogues très fortes et elle est restée toute sa vie ensuite un peu addict. Il y a un peu la même chose pour Yves Saint-Laurent. Wake up your sleepy head, put on some clothes, shake
up your bed. Put another log on the fire for me. En 62, Yves Saint-Laurent ouvre à son nom une maison de couture avec Pierre Berger. Cracking the sky and a hand reaching down to me. All the nightmares came today. And it looks as though they're here to stay.
Jean-Pierre Berbord.
J'étais pendant très longtemps le seul tailleur chez Saint-Laurent et il y avait des ateliers flous, elles étaient plus nombreuses. On appelle ateliers flous bien sûr celles qui font les robes, robes du soir, robes de cocktail, blouses qui vont sur les tailleurs. Bon, Monsieur Saint-Laurent, à chaque collection, bien sûr, dessine peut-être plusieurs centaines de fait plusieurs centaines de croquis. Lorsque un mois et demi, disons, avant les collections, il vous appelle dans le studio. En général, il m'appelait souvent le premier et il me montrait, il étalait ses croquis sur un plateau avec tous les tailleurs. Même il me montrait les robes aussi. Et après, on revenait surtout sur les tailleurs. Et il y avait un moment magique parce que on voyait son coup de crayon comme ça, assez extraordinaire. Parce que c'était pas des croquis statiques, c'était des croquis dans le mouvement. Et c'était un peu une histoire sans parole. Il fallait vraiment savoir lire le croquis. Il fallait vraiment être en osmose avec lui, comprendre sa sensibilité, comprendre ce qu'il avait voulu interpréter d'après son coup de crayon, les proportions, la souplesse, les mouvements, les c'était vraiment le côté structuré, le côté plus décontracté, tout ça avait une grande importance. parce qu'il vous laissait libre cours à votre imagination. C'était à vous de trouver la coupe qui correspondait, voilà.
Quels sont les premiers vêtements proposés par Yves Saint-Laurent?
Le plus connu dans la première collection, c'est le caban bleu marine, avec les boutons dorés, avec un pantalon qui était en shantung, soit shantung blanc cassé, ivoire, qui était mis avec des babouches. Et quand on pense que la plupart de la reste de la collection était beaucoup plus haute couture, dentelle, soie, c'est assez étonnant de redécouvrir le caban de Saint-Laurent, qui était bleu marine, laine, beaucoup plus dans l'idée de travailleur, beaucoup plus dans l'idée de la garde-robe d'un homme. Et la force de ce vêtement qui dure encore, qui est devenu une basique pour femmes et hommes, qui inspire encore des autres créateurs. Et voilà, je pense qu'on voit tout de suite dans cette collection ce don qu'Yves Saint-Laurent avait pour vraiment comprendre avec une intuition inouïe ce que la femme cherchait ou va vouloir. Et aussi, il pouvait créer des vêtements qui duraient, parce qu'il y a d'autres créateurs, il y a d'autres couturiers qui peuvent créer ce que la femme a envie de cette saison. Mais c'est étonnant de trouver un vêtement qui dure 62, là on est en 2010, et qui a cette intemporalité, cette côté très moderne. And I want it into black. No colors anymore, I want them to turn black.
Lorsque je pensais être bien, disons, quand j'avais à peu près une trentaine de toiles, je prenais le studio et là je lui faisais une présentation sur les mannequins dans son grand studio. Alors là, bien sûr, c'était un peu comme si on était un examen. Parce que lorsque vous rentriez dans ce grand studio, il y avait un grand recul, il y avait des miroirs au fond, lui il était sur la droite, assis sur une chaise devant sa table avec son tréteau. C'était une table avec sur deux tréteaux, une planche comme ça, avec une feutrine sur deux tréteaux. Il regardait les vêtements dans le miroir. Et vous lui donniez son croquis et il regardait si ça correspondait à ce qu'il avait imaginé. Parce qu'il ne vous disait pas grand-chose, mais lui, son imagination, vous deviez la capter. C'était un peu comme des ondes, vous deviez la capter. Alors il était ou très content, ou il vous disait « Oh ça, Jean-Pierre, j'aurais vu ça un peu plus long », ou des choses comme ça. Ou d'un seul coup, il y a une chose qui l'emballait. Alors on n'allait plus vers cette chose-là, il refaisait peut-être des croquis vers une tendance, plus vers ça que vers une autre. Mais c'était un travail d'étude en fin de compte. C'était le début d'une collection, c'était ça.
Yves Saint-Laurent, collection Printemps-Été 67.
J'ai fait deux sortes de femmes. Une femme qui est beaucoup plus habillée, plus long d'ailleurs, plus normalement habillée. Moi, je déteste la mini-jupe. Il y a beaucoup de tailleurs inspirés du tailleur d'homme, du veston d'homme avec des gilets et beaucoup de pantalons. Ils sont coupés exactement comme des pantalons d'homme, oui. Ils sont plus larges aussi.
La couleur dominante ?
Eh bien, il y a beaucoup de noir.
Deuxième style.
Évidemment, il y a certaines robes qu'il ne faut pas prendre au sérieux. Donc, je parle des robes qui sont d'inspiration africaine, avec des robes de raffia et des robes de bois.
Et des couleurs très vives.
Des couleurs très très vives, oui. J'aime beaucoup les imprimés très vifs, avec des couleurs très... des très grands dessins un peu.
Et beaucoup d'ampleur.
Oui, une ampleur en trapèze qui part du haut et qui s'évase quoi, vers le bas.
Et pour la mariée?
Oh, il n'y a plus de mariés maintenant, ça fait déjà 3 collections qu'il n'y a plus de mariés, mais simplement des gags un peu. Cette fois-ci, elle a un bikini de camélia blanc et puis elle porte des fleurs dans ses bras, simplement. C'est une mariée pour Saint-Tropez.
Belle de jour, l'héroïne du film de Louise Buñuel, incarnée par Catherine Deneuve, est-elle une femme Saint-Laurent ?
Elle est une femme Saint-Laurent parce qu'il l'a habillée. Elle est une femme Saint-Laurent aussi dans son essence parce que c'est une bourgeoise qui est délurée. C'est une bourgeoise qui vit une sorte d'explosion sexuelle. Et puis c'est une femme Saint-Laurent aussi parce que par ses goûts un peu extrêmes, elle ressemble beaucoup à Yves Saint-Laurent lui-même.
On peut donner quelques détails des vêtements qu'il a utilisés, qui accompagnent les fantasmes de Louise Buñuel et de Saint-Laurent ?
Oui, alors au début du film, Catherine Deneuve le personnage de Séverine, interprété par Catherine Deneuve, subit un viol. Et en fait, le viol est exprimé par le vêtement. C'est une robe rouge qui est arrachée et c'est le son, l'arrachement de la robe qui exprime toute la violence de ce qui est en train de se passer et le fantasme en même temps, parce qu'à l'intérieur de la robe rouge, il a cousu un scratch. Il y a aussi dans Belle de jour un trench en ciré noir qui indique que cette femme bourgeoise, épouse très sage d'un médecin, vient de passer dans un autre camp beaucoup plus vénéneux.
Je me souviens très bien qu'il me montrait des photos de Greta Garbo. Je me souviens qu'il m'avait montré une photo de Greta Garbo dans un par-dessus d'homme, carrément, un peu grand pour elle, mais avec un tel chic, il y avait une espèce d'abandon comme ça, c'était fascinant. Et il m'a dit, est-ce que vous pouvez vous inspirer de cette chose-là, Jean-Pierre ça. Effectivement, alors moi j'étais fasciné par ça, et c'est vrai que j'ai fait une toile d'après cette chose-là, et on a fait des par-dessus comme ça. Souvent, il m'a fait référence, ou même à Lorraine Bacall, pour un jour, je ne sais plus quel film, elle avait un tailleur grain de poudre, et il aimait l'allure qu'elle avait. C'était l'allure, surtout. Il fallait retrouver l'allure. Et disons que, bien sûr, on le fait avec les yeux actuels, mais ça nous permet de nous plonger dans cette mémoire du passé et puis de refaire une chose un peu différente, mais en s'inspirant de ce glamour, justement, de ces films anciens et tout ça. Il a fait beaucoup. Le trench aussi, c'est pareil. Sauf que le trench, il me l'a fait faire je me souviens très bien, un jour pour Zizi Jeanmaire, en satin rose ou en panthère, par exemple, vous voyez. Donc, c'était complètement différent, mais c'était un trench d'homme, vous voyez. Souvent, comme ça, c'était des références beaucoup. Il aimait beaucoup le transposer la garde-robe masculine qui trouvait que c'était une garde-robe basique. Les cabans, les trench, tout ça, c'était très dans la vie. Sauf qu'il a su lui donner le glamour, lui donner l'élégance, comme ça, le côté fascinant de le glamour avec la femme. C'est vrai, quand elles étaient avec ce trench rose sur une robe du soir, c'était absolument étonnant, comme ça.
So you do get up. I was beginning to think perhaps you worked in bed like Marcel Proust.
Who's he?
You wouldn't know him. French writer.
Come on, boudoir.
Alors, ça, je me souviens très bien, quand les femmes mettaient des tailleurs Saint-Laurent, elles se sentaient être une autre femme. Elles se sentaient tenues tout en étant à l'aise, je veux dire. Pas, elles oubliaient leurs vêtements, mais elles savaient qu'elles étaient portée comme une espèce de... comme si on leur avait donné un pouvoir, quelque part.
La notion d'égalité intéresse-t-elle Yves Saint-Laurent avec le tailleur pantalon et le smoking pour femmes ? A-t-il la volonté de mettre sur un pied d'égalité les femmes et les hommes ? De donner le pouvoir aux femmes ? Laurence Benahim.
Je pense qu'il n'y a pas de dimension comme ça aussi idéologique, et il n'y a pas de discours chez Yves Saint Laurent. Après, ce sont les autres qui interprètent cette incroyable intuition de l'époque. Sa force, c'est justement de ne pas avoir cherché, comme il le disait, à faire des égales de l'homme, mais leur contraire, leur opposé, de magnifier leur différence. À part ça, de porter un pantalon plutôt avec des talons pour montrer qu'on peut être à la fois comme le héros ou l'héroïne Orlando de Virginia Woolf, qu'on peut être à la fois il et elle, et assumer en Saint Laurent tous les paradoxes et de tous les sexes.
Il s'agit d'un glissement de genre ?
Il s'agit non pas d'un glissement de genre, mais il s'agit d'une façon, d'une appréhension totale et une façon de s'exposer, de ne jamais s'en référer aux clichés de la femme coquette ou de la femme garçonne, à tout ce qui a été vu et revu. C'est toujours d'inventer sa propre histoire, en s'appuyant sur des histoires qui ont existé. Je pense bien sûr à la représentation de Marlène dans L'Ange Bleu par Sternberg. Je pense bien sûr à cette façon de scénariser des attitudes féminines en se souvenant toujours des grands maîtres du cinéma. Et je pense que le cinéma est extrêmement important chez Yves Saint Laurent. Il s'agisse de tous les réalisateurs américains de l'entre-deux-guerres, qu'il s'agisse des réalisateurs de la Nouvelle Vague comme Truffaut. Il y a une place incroyable accordée aux femmes et au jeu des femmes. Just let me do all the work. Wait, let me put this record on.
Qu'est-ce que le style masculin-féminin proposé par Yves Saint Laurent ?
C'était une des colonnes de son œuvre. C'était ça la base de son travail, mais aussi de son regard. Je pense que c'est comme ça qu'il voyait la femme et la silhouette avec laquelle il voulait travailler. C'était une femme. Il disait que chaque femme et chaque forme pouvait mettre ses vêtements, mais je pense que son idéal, ce n'était pas une femme avec une grosse poitrine ou avec beaucoup de fesses, mais c'était plutôt une femme très longiline. Par exemple, Betty Catrou, son égérie, elle est très grande, elle est très longiline, et le corps d'une femme qui ressemblait à son corps aussi. Il y a aussi ça qui est très important, le corps d'Yves Saint Laurent. Je parle du corps quand il était un jeune homme de 30 ans. C'était un corps qui était aussi lui-même assez androgyne. Et je pense qu'il était fasciné par la femme et qu'il... Et je me demande si c'est pas la frustration de plusieurs couturiers et créateurs, qu'il voulait presque être dans le corps d'une femme, dans son travail, au moment de création. Par exemple, il y a une interview avec Betty Catrou et Yves Saint Laurent en 60, je pense que c'est 67, peut-être 68. Et c'était un moment où il était fasciné par Betty Catrou. De toute façon, toute sa vie, il a eu cette fascination pour elle. Et il parle d'elle et il dit « Je voudrais être Betty ». Il y avait vraiment cette envie d'être la femme, de pouvoir mettre ses vêtements, je pense.
Le smoking pour homme, que signifie-t-il ? Que symbolise-t-il ?
On s'est toujours inspiré du smoking pour homme, parce que c'est une tenue habillée, c'est une tenue du soir, bien sûr.
Et comment est-ce que vous êtes venu à créer, avec M. Saint-Laurent, le smoking pour femme ? Comment c'est venu ?
Les revers, on les faisait comme pour les hommes en satin, bien sûr. On mettait des galons de satin, comme pour les hommes, pareil. Sauf que les coupes, bien sûr, étaient plus féminisées parce que où elles étaient près du corps, où elles étaient. Et il y avait souvent, quelquefois, des blouses en mousseline noire ou transparente, qui était peut-être un peu osée, où il y avait des hauts de paillettes noires. C'était très féminin aussi en même temps. C'était pas du tout ambigu quelque part. La femme était très féminine. C'était un autre charme. Okay. C'était une autre vision de la femme. Et c'est vrai que le smoking, ça a été vraiment une des choses que l'on faisait chaque saison. Il a fait, dans les années 62, il a fait un des premiers smoking. Et puis après, ça a été plus établi, disons. Au fur et à mesure que les années ont passé, on a travaillé ces lignes. C'est-à-dire que ce qui est intéressant dans les collections Saint-Laurent, c'est pas une collection où on dit ça y est, c'est terminé, c'est démodé, tout ça, pas du tout. C'est comme une collection qu'on prend en 68 et qui continue jusqu'en l'an 2002, vous voyez. Donc, on renie jamais ce que l'on a fait, en fin de compte. On reprend les choses que l'on a fait, mais on retrouve toujours une nouveauté, autre chose. C'était peut-être les mêmes matières, c'était le même grain de poudre, c'était le même satin, mais c'était jamais la même chose, en fin de compte.
Jean-Pierre Derbord, quelles sont les couleurs d'Yves Saint-Laurent ?
Alors, les couleurs d'Yves Saint-Laurent, en premier lieu, c'est le noir. Et pour lui, le noir, il y a le noir mat, il y a le noir brillant, il y a le noir
velours,
il y a le noir paillette aussi. Et les mélanges, il a fait des mélanges de noir absolument fabuleux. Et le noir n'est jamais triste. C'est ça qui est formidable. Il faisait des choses étonnantes. Alors, il pouvait d'un seul coup mélanger un rose choquigne avec, voilà. Et il a su, dans les robes du soir, les mousselines, est-ce que c'est le fait d'avoir une maison à Marrakech, mais on retrouvait ces couleurs de majorelle, ces bleus mélangés avec ces verts, ou ces tons orangés mélangés avec ces jaunes, ou ces roses un peu lilas, vous voyez, toutes ces subtilités comme ça. C'était comme un peintre, en fin de compte. Il mélangeait ses couleurs comme ça.
À propos de sa découverte de Marrakech en 67, vous parlez d'initiation marocaine. Qu'entendez-vous par là, Alicia Drake ?
C'était un moment très important quand Yves Saint Laurent a découvert Marrakech. Parce qu'il faut s'en souvenir que c'était un jeune garçon d'Oran. Mais après la guerre en Algérie, il n'est pas retourné à Oran. Il était dans un espèce d'exil à Paris. Et là, quand il trouve Marrakech avec la maison, il est allé pour la première fois avec Pierre Berger et Tadej Klossowski et Clara Saint. Ils ont loué une maison. Ensuite, ils ont très vite acheté une maison. Et c'était pour lui, Tadej Klossowski, qui était avec lui sur ce premier voyage, m'a parlé du fait qu'il pense que pour Yves Saint Laurent, c'était vraiment un retour à son pays natal, parce que ce n'était pas l'Algérie, mais à tous les odeurs, les couleurs, les sensations nord-africains qu'il n'a pas vécu depuis plusieurs années. Voilà qu'il a vécu à Marrakech, avec en plus toute une décadence, une liberté qu'il n'a pas vécu à Oran. Marrakech, ce n'était pas provincial. Oran, c'était quand même très province, et ce n'était pas du tout ça qu'il a vécu à Marrakech. À Marrakech, il était en train de dîner, de faire la fête avec Talita Gatté, Jean-Paul Gatté. Il n'était pas très province. Ils avaient un palais, ils faisaient des superbes dîners avec des gens de rock and roll, de Rolling Stones, de Marianne Faithfull. Ça, ce n'était pas province non plus. Alors voilà, il a vécu tout cet côté nord-africain, tout ce qui a souk et couleur. Mais en plus, avec tout cet côté un peu cosmopolite, hippie, jet set hippie, pas hippie ruta, mais hippie jet set, c'est très... c'était un moment énorme pour lui. ça le libérait. Il parlait du fait qu'il expérimentait avec des drogues, genre hashish, etc. Ça aussi, il est devenu très sensuel. Il y a des photos de lui à Paris, juste avant, 2 ans avant, où il était encore dans une espèce de petit costume. Et quand on pense comme il était chez Dior, dans un costume noir, avec une cravate noire, tout très, très serré. Et là, tout d'un coup, on le voit à Marrakech, avec une chemise ouverte jusque là, jusqu'en bas, avec des espèces de petits colliers, un peu beatnik, un peu hippie, les cheveux qui commencent à pousser. Ça a dû être délicieux pour lui de vivre ça. Et de aussi quitter la pression d'être Monsieur Saint-Laurent à Paris, avec les collections, avec sa propre maison de couture. Et là, il était entouré par tous ces gens qui étaient dans une recherche de décadence assez approfondie.
Blanc sur blanc, un peu de poudre sur ta peau.
Quel est votre trait principal de caractère ?
La volonté.
Votre plus grand défaut ?
La timidité.
Votre qualité préférée chez l'homme ?
L'indulgence.
Et chez les femmes ?
La même chose.
Votre personnage historique favori ?
Mademoiselle Chanel.
Qui auriez-vous aimé être ?
Un beatnik.
Quel est votre idéal de bonheur terrestre ?
Dormir avec les gens que j'aime.
Souvenez-vous de la collection Libération ?
Celle qui a choqué. Ah voilà, oui, absolument, tout à fait, tout à fait. Moi, j'ai adoré cette collection, je vais vous dire, personnellement. Elle n'a pas été comprise du tout. J'avais fait le renard vert, qui était très épaulé, très 40, comme ça. Et effectivement, les femmes étaient dans des robes drapées, très moulées, très courtes, les cheveux... Assez 40, bien sûr, des renards argentés, tout ça. Et ça avait été très mal pris parce qu'on n'a pas compris ce qu'il avait voulu faire. On associait ça à une mauvaise époque, ce qui était complètement ridicule parce que lui, ce qui l'amusait beaucoup, c'était le porter des vêtements de l'époque qu'il a réinterprété comme ça. Et je me souviens que peut-être dans la saison, j'ai dû faire un tailleur parce que personne de la presse avait été tellement épouvantable qu'en fin de compte, c'était un échec total. Et le pire, c'est que le prêt-à-porter, tout de suite après, tout le monde s'en est inspiré et c'était un succès extraordinaire. C'est après qu'est venu le succès, c'est après que les gens ont compris ce qu'il avait voulu faire. Mais ça a été vraiment un choc terrible. Mais je pense que ça lui a pas déplu quelque part, parce qu'il aimait provoquer aussi ça. C'était un provocateur dans son esprit. Hein.
J'ai parlé à Loulou de la Falaise par rapport à cette collection, et elle se souvenait très bien de la collection, et aussi la fille, le mannequin qui défilait. Et c'est une fille, elle m'a expliqué ça. Elle était rousse, avec les seins assez importants, et elle ne mettait pas de soutien-gorge. Et quand elle mettait une de ses robes des années 40, pas des années 40, de 1971, mais vue par Yves Saint Laurent, c'était des robes très moulantes, jasées de soie, et ses seins bougeaient, tout bougeait. Je me souviens, Loulou de la Fesse a dit, tout bougeait. Alors, dans un salon de couture, de voir une femme comme ça, une femme qui n'était pas du tout un mannequin sec, des années 50, couture avec un chignon, mais une femme rousse avec les seins qui bougent, je pense que ça aussi a contribué au fait que cette collection était très choquante pour tout le monde.
beaucoup de fans d'Yves Saint Laurent se divisent parce que les uns, pour certains, c'est le défilé de 71 qui marque une véritable rupture parce que plastiquement, l'influence, c'est la rue en fait qui monte sur le podium. Et d'autres, c'est l'inverse. D'autres aiment les grands défilés de 76 qui est la collection des ballets russes dans laquelle il y a une débauche de luxe et où on est, au contraire, on revient à une mode extrêmement théâtrale. C'est en pleine crise. Il y a une crise économique très, très dure et il a contrebalancé cette crise en faisant l'inverse de ce qu'on attend de lui, c'est-à-dire une collection avec une richesse. Je crois qu'il y a eu 300 passages.
Pourquoi Yves Saint Laurent opère-t-il en 71 avec sa collection Libération un changement de cap, un virage rétro?
Parce que je pense que c'était dans l'air du temps. Il y avait déjà Paloma Picasso qui s'habillait très années 40. Il y avait toutes les filles à Londres, Portobello Market, qui arrachaient tout ce qui était des années 30, des années 40. Il y avait un grand retour à Art Deco à l'époque, c'est-à-dire une nouvelle génération qui découvrait l'Art Deco. Il y avait Ozzy Clark, un créateur anglais très très important, qui allait aussi à Marrakech et Yves Saint Laurent l'avait vu à Marrakech et Ozzy Clark a fait une ligne des années 30, des vestes des années 40 avant qu'Yves Saint Laurent faisait ça à Londres. Et alors je pense que ça c'était vraiment dans l'air du temps. Encore une fois, on voit que Yves Saint Laurent prend quelque chose qui est dans l'air du temps. Ensuite, il fait avec son propre génie pour que ça devienne l'incontournable, pour que ça devienne le pilier de ces tendances. C'est ça ce qui est frappant avec Saint Laurent, c'est sa possibilité, son talent pour prendre ce qu'il y avait, ce qu'il y était dans l'air du temps, et quand il le fait, quand il le dessine avec sa main, avec son crayon, ça devient quelque chose qui dure, quelque chose qui est imbattable. Mais ce qui était aussi très choquant, c'était que c'était à Paris. Et Paris a subi l'occupation, Londres non. Quand Ozzy Clark a montré sa collection à Londres, pour les Anglais, ça signifiait The Blitz. Un moment où on était plutôt fiers de pouvoir vivre et revivre. Pour Paris, quand ils ont vu cette collection, c'était l'occupation.
C'est un très grand styliste. Donc il a inventé une nouvelle façon probablement de porter les vêtements.
Marie-Dominique Lelièvre.
Dans l'histoire du vêtement, dans l'histoire du costume lui-même à proprement parler, je pense que des personnes comme des couturiers tels que André Courrèges, Pierre Cardin, Paco Rabanne laisseront une trace importante. Je pense que Yves Saint Laurent, lui, c'est dans l'histoire de la mode qu'il laissera une trace, mais pas dans l'histoire du costume. Il n'a pas créé de costume nouveau. Il a créé de nouvelles façons de porter les vêtements. Il a créé aussi le modèle du couturier d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en 71, quand il fait sa collection dite à l'époque rétro...
Libération.
Oui, que d'autres ont appelé la collection Libération, d'autres la collection Occupation, enfin on peut l'appeler de multiples façons parce qu'en fait les collections d'Yves Saint Laurent ne portaient pas de nom, c'est les journalistes qui leur donnaient des noms après. Mais ce qu'il a fait et qui reste aujourd'hui très, très influent, c'est qu'il s'est donc inspiré de très près de mode de la mode d'une autre période et aujourd'hui on est toujours là-dedans puisque il n'y a pas de vêtements nouveaux depuis très longtemps dans la mode et il y a une réinterprétation perpétuelle de décennies qui ont disparu. Ça c'était une chose forte qu'il a apportée.
Falling in love again, never wanted to. What am I to do? I can't help it.
Avec ses collections hommes, Yves Saint Laurent crée-t-il un homme nouveau, oui. Alicia Drake.
Absolument. Alors, pour ça, je conseille à tout le monde d'aller faire un tour devant le lycée Montaigne ou l'école alsacienne dans le 6e arrondissement où on peut voir cet homme. Il a peut-être 16, 17 ans. Il est d'une forme très longiligne, très dandy, très maigre, mince presque, et avec très conscient de soi-même et de son séduction de jeunesse. Et ça, c'était une silhouette que Yves Saint Laurent a vraiment compris dans des années, fin des années 60 et début des années 70. Ce n'était pas du tout la silhouette de l'homme dans les années 80. L'homme dans les années 80, c'était plutôt Marlboro Man avec une cigarette, avec les épaules de là jusqu'à là. Vous n'êtes pas avec moi, mais j'ai les mains assez larges. Et avec un costume qui va avec ses épaules. Et maintenant, on voit dans la jeunesse qu'il y a un nouveau corps que Saint Laurent a compris dans les années 70. Et c'est un corps d'un garçon plutôt qu'un homme, même si ce garçon a 22 ou 25 ou 32. C'est dommage pour ceux qui n'ont pas ce corps, parce que bientôt il n'y aura plus de vêtements pour eux. Mais vraiment, c'est un changement de silhouette net. Et que la jeunesse... j'ai l'impression que le corps d'homme a changé, parce que je la vois dans cette jeunesse. Mais ce que je trouve frappant, c'est exactement la silhouette que Saint Laurent a habillée dans les années 70 et qu'il a imaginée. Et voilà que cette silhouette, ce corps est parmi nous maintenant.
Je pense que c'est un personnage de son époque. Yves Saint Laurent, c'est vraiment un personnage des années 70. Et je le vois plus comme un personnage warholien, comme un personnage qui crée aussi en même temps sa statue, qui sait exactement ce qu'il fait, qui sait très tôt utiliser les médias. Mais on peut peut-être, comme vous le dites, le voir comme un personnage poussien. On peut projeter beaucoup de choses sur lui.
Vous dites que Yves Saint Laurent est comparable au héros de la peau de chagrin de Balzac.
Oui, parce que le héros de la peau de chagrin... fait un pacte quasiment avec le diable, en fait. Il achète cette peau de chagrin et puis cette peau de chagrin lui permettra de
satisfaire tous ses désirs d'excès.
Tous ses désirs, tout court, enfin, tous ses désirs, le désir de gloire, le désir de richesse, le désir, etc. Mais en même temps, sa vie va se rétrécir au fur et à mesure. Enfin, la peau se rétrécit et sa vie en même temps. Et c'est un peu ce qui est arrivé à Yves Saint Laurent, parce qu'il avait ses désirs très jeunes pour se revancher des humiliations subies, d'être glorieux. Il l'a été, et en même temps, plus il avait gloire, argent, renommée internationale, et plus sa propre vie se rétrécissait. Donc finalement, c'est en ça que je trouvais qu'il y avait des points communs. Ouais.
You're a voice on the street. You're the faces that I meet. All day my life is keeping time.
Je me souviens ce jour-là. J'avais eu un brushing et j'avais un tailleur pantalon. Et Betty Catro était là, elle m'a présenté à Yves Saint Laurent, qui était d'une politesse exceptionnelle et qui m'a regardé et qui m'a parlé et qui m'a souri. Voilà. Je me souviens, parce que tout le monde parle de son charisme, mais là, je me suis dit... À ce moment-là, il fallait que je tiens à la table pour ne pas être aspirée par ce charisme qui était extraordinaire. Mais alors, le charisme, ça passait par son œil, son regard, la façon dont il vous regardait. Et tout le monde m'avait dit ça. Tout le monde qui travaille pour la maison d'Yves Saint Laurent, et quand j'allais à la maison d'Yves Saint Laurent pour faire mes recherches, j'avais vu ça. L'œil d'Yves Saint Laurent. Oh, tout le monde voulait être belle pour Yves Saint Laurent. Homme, femme. Oh, monsieur Yves Saint Laurent. Oh, monsieur Saint Laurent, il est là. Oh, il arrive. Oh, il faut être... Et j'avais toujours regardé ça avec une certaine ironie. Et là, je me suis retrouvée devant cet œil et en train de faire exactement la même chose. Oh, il faut être belle pour monsieur Saint Laurent. Il m'avait dit oui, on va faire l'interview. 6 mois plus tard, j'avais pas de nouvelles, pas d'interview. Je l'ai revu. Ce jour-là, je ne suis pas allée chez le coiffeur. Je n'avais pas un tailleur pantalon. Je me souviens pas ce que j'avais. Mais en tout cas, j'étais, voilà, une femme de tous les jours. Et je suis allée voir monsieur Saint Laurent. J'ai dit, excusez-moi, monsieur Saint Laurent, nous sommes. Et il a tourné vers moi. Et il m'a vu. Et alors là, j'ai vu l'œil, un espèce de rage, ou pas rage, mais une espèce de... que je n'étais pas ce qu'il attendait, que je n'étais pas celui qu'il fallait être, et que il fallait absolument que je pars, qu'il ne me parlera de toute façon pas. Et on vient aussi à l'idée qui est de Saint-Laurent, qui était aussi son... faisait partie de sa puissance, qu'en fait, il voulait, il regardait, il voyait simplement ce qu'il voulait voir, ce qu'il voulait regarder, ce qui l'intéressait. Vous n'étiez rien, en fait. Vous étiez là pour qu'il projette ses images sur vous. Et si vous n'étiez pas à l'auteur de cette image, c'était mieux que vous partiez.
Quel est le défilé Saint-Laurent qui vous paraît, à vous, Laurence Benaïm, le plus accompli, le plus emblématique, hein?
Je dirais que chaque défilé Yves Saint-Laurent est un petit peu comme le chapitre d'une histoire. Plus je regarde le dernier défilé, c'est-à-dire celui de juillet 2001, et plus je trouve au milieu de... tous ces tailleurs qui peuvent paraître à beaucoup des répétitions. On a même dit que Yves Saint-Laurent n'avait rien fait entre 70 et 2000, ce que je trouve inconséquent, absolument inaudible. Et plus je vois dans ces robes, comme des poids de senteur, des absolus, une sorte de d'ode au corps qui consiste à utiliser le moins de matière possible pour dire le maximum, pour chanter la beauté suprême de la femme.
Quelle est la postérité d'Yves Saint-Laurent ?
La postérité d'Yves Saint-Laurent, c'est cette phrase, c'est mon arme et le regard que je porte sur mon époque. C'est comme une robe et j'espère que beaucoup de couturiers, beaucoup de femmes, beaucoup de gens... porteront cette phrase comme une sorte d'étendard, cette façon de faire son métier jusqu'au bout, tout en étant toujours un petit peu critique, toujours en ayant toujours une distance avec ce qu'on fait. Et c'est pour moi la postérité d'Yves Saint-Laurent, c'est toujours un regard sur le monde, un regard que rien n'altère, un regard qui plein de courage. Qui s'expose, qui remet toujours tout en doute.
Yves Saint-Laurent par Pascal Charpentier, avec Laurence Benaïm, auteur d'Yves Saint-Laurent biographie et Requiem pour Yves Saint-Laurent, édition Grasset. Alicia Drake, auteur de Beautiful People, Saint-Laurent Lagerfeld, Splendeur et misère de la mode, édition de Noël. Marie-Dominique Lelièvre, auteur de Saint-Laurent Mauvais Garçon, édition Flammarion. Jean-Pierre Derbor, directeur technique de l'atelier Veste, a travaillé 37 ans auprès de Monsieur Saint-Laurent. Et la voix d'Yves Saint-Laurent, Archivina. Archive Géraldine Biasotto. Coordination Pascal Dacibat, prise de son Yves Lehor, mixage Serge Ristich, réalisation Dominique Costa. Thank you.
Une vie, une œuvre se réécoute et se podcast partout en allant tout simplement sur la page de l'émission sur le site de France Culture. Une page préparée, enrichie et élaborée avec amour et passion par Pascaline Bonnet et Juliette Testa. Et dans un instant, nous retrouvons Étienne Klein et la conversation scientifique.